Bonsoir. Bienvenue à la table ronde hommage à Brian Aldiss, un auteur anglais, un des grands auteurs anglais de science-fiction qui nous a quittés au mois d'août. Voilà. Pour parler de Brian Aldiss ce soir avec moi, Laurent Jeunefort, auteur de science-fiction français, qui a été chercheur universitaire et donc qui a travaillé sur une œuvre en particulier de Brian Aldiss, mais il va nous expliquer tout ça. À sa gauche, Gérard Klein, auteur, éditeur de science-fiction, anthologiste, préfacier. Il a publié notamment le roman sur lequel a travaillé Laurent, Heliconia de Brian Aldiss. Et je pense qu'il connaissait Brian Aldiss et qu'il va peut-être pouvoir nous en parler. Et à sa gauche, Norman Spinrad, auteur américain de science-fiction, voilà, qu'on ne présente plus, qui a écrit tout un tas de romans, dont parmi les plus connus, Jack Baron, Bleu comme une orange, Rêve de fer. Voilà. Alors, pour être tout à fait honnête, ce soir il devait y avoir un Michael Moorcock avec nous qui, pour des raisons personnelles, ne peut pas être là. Et c'est dommage parce qu'il connaissait très bien Brian Aldiss. Et donc, Laurent Jeunefort a accepté, fort de sa connaissance de l'œuvre de Brian Aldiss, de le remplacer. Donc, merci à Laurent d'être ici. Donc, pour commencer, j'ai envie de vous demander à tous les trois. À tous les deux en tout cas, parce que Laurent, je ne sais pas si tu as rencontré Brian Aldiss. Comment...
Une seule fois.
D'accord. Bah alors, voilà. Comment vous l'avez rencontré soit d'abord par ses textes, ou alors la personne, Brian Aldiss. Comment... Votre première rencontre avec Brian Aldiss. Bah, tu peux commencer, Laurent, peut-être.
Ma première rencontre avec Aldiss, ça a été une rencontre de lecteur. Moi, c'est un de mes auteurs fondateurs. J'ai pas peur de le dire, c'est vraiment un de mes auteurs qui a pour moi été aussi important qu'un Asimov ou qu'un Farmer dans ma formation. En fait, quand on est lecteur, c'est une sorte de formation sauvage. Et pour moi, Aldiss, ça, c'est un auteur absolument majeur. Il fait pas partie des petits maîtres de la science-fiction. C'est un des grands maîtres pour moi de la SF. Il y a aucun doute. Et quand j'ai découvert le premier roman que j'ai lu, c'était Le Monde Vert, Hot House. Et moi, ça a été une véritable révélation quand je l'ai lu. J'ai lu que c'était une SF que j'avais mais jamais lue avant, où j'avais conscience que c'était, ça collait pas au niveau scientifique, que c'était un univers très particulier presque à la limite de la poésie. J'ai dû lire ça, j'étais en sixième, et ça a été une sorte de choc esthétique, en fait. Et après, j'ai lu Croisière sans escale, non-stop, et après, ces autres œuvres, L'espace, le temps et Nathaniel, je crois, ou je ne sais plus dans quel ordre c'est. Voilà, son recueil de nouvelles. Et moi, j'ai eu l'impression qu'à chaque fois que j'ai lu du Aldiss, j'avais l'impression de lire le livre canonique sur le thème traité. À chaque fois, par exemple, pour moi, Croisière sans escale, c'est le meilleur roman sur les vaisseaux générationnels que j'ai jamais lu. Et c'est pour ça, pour nombre de ses œuvres, en fait. Je trouve que c'est l'espèce de forme de SF la plus pure, entre guillemets, que j'ai lue, la plus parfaite, la plus achevée, en fait. Et donc voilà, pour moi, Aldiss, c'est un auteur qui représente, c'est un auteur solide. C'est un auteur que je cite tout le temps quand je parle de tel ou tel thème, parce qu'il s'impose.
Et donc tu l'as rencontré une fois, tu disais ?
Alors, je l'ai rencontré une fois pour l'interviewer avec, c'était avec Alain Évan, c'était lui qui m'avait intégré pour une interview pour je sais plus quoi, en fait. D'accord. Et mon anglais était tellement mauvais que j'ai eu la honte de ma vie de me présenter devant lui avec un anglais aussi mauvais. Et c'est là que j'ai découvert que c'était un gentleman parfait aussi.
Gérard, peut-être votre rencontre ?
Oui, alors je l'ai rencontré plusieurs fois et je l'ai publié également plusieurs fois. J'ai d'abord lu, avant de le rencontrer, Croisière sans escale, que j'ai trouvé un livre absolument extraordinaire. Et puis, je l'ai rencontré personnellement pour la première fois, je pense, en 1970 ou 71, chez John Brunner. Je prenais contact avec Brunner, qui était absolument charmant, qui avait une très jolie maison à Hampstead, dans une banlieue, un quartier chic du Grand Londres. Nous avons passé là une excellente soirée. Alors je ne peux pas dire que j'en ai un souvenir extraordinairement précis parce que ça commence à être un peu loin. Enfin, j'étais très heureux de rencontrer Brian Aldiss. Je ne sais pas si Ballard n'était pas là aussi, mais je n'en suis pas sûr. Auquel cas, j'ai fait un très très beau doublé. Je commençais à peine à l'époque, Ailleurs et demain. Et alors, je l'ai rencontré de nouveau plusieurs fois. Notamment une fois dans une circonstance un peu étrange, une fondation avait invité Brian Aldiss et trois ou quatre connaisseurs de la science-fiction pour faire une espèce de séminaire dans un lieu en province, enfin à la campagne. C'était d'ailleurs très agréable et nous avons passé toute la journée ensemble. Brian Aldiss et je ne sais plus qui a parlé de la science-fiction anglo-saxonne et moi de la science-fiction française. Et alors j'ai, par courtoisie, bien que mon anglais ne soit pas bon, je me suis exprimé pendant près d'une heure en anglais, par courtoisie pour Aldiss et pour je ne sais qui d'autre. Tu n'étais pas là, non? Non, tu n'étais pas là. You are not there. To this place with Brian Aldiss and... Oui. Non, je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas. On était très peu nombreux. On était très bien sûrs, enfin, etc. Les autres Français ont fait imperturbablement leurs exposés en français. Ce que j'ai trouvé un peu... Enfin bon, peut-être un peu professionnellement comme économiste, j'ai une autre habitude de la diplomatie et des relations. Et bon, je trouvais ça un peu cavalier. Donc moi, je me suis jeté à l'eau. Et ça a beaucoup amusé Aldiss. Je l'ai revu, je ne sais plus très bien dans quelles circonstances, quelques années après. Et j'ai évidemment été très affecté quand j'ai appris sa disparition. Alors j'ai publié plusieurs livres de lui, et notamment, et peut-être surtout, son extraordinaire trilogie, Heliconia. Et puis j'ai repris, qui me paraît un des grands chefs-d'œuvre de la science-fiction, et un grand chef-d'œuvre de la littérature tout court, bien que la science-fiction et la littérature me semblent être des choses bien différentes. J'ai republié également au livre de poche Le Monde Vert, mais je n'ai pas pu, je ne sais plus très bien pour quelle raison, je crois qu'il y a un problème de traducteur, pour reprendre l'édition intégrale, si bien que j'ai reproduit l'édition assez partielle qui était parue en revue et qui était parue en français dans la revue Fiction. Et bon, j'aurais aimé pouvoir... Oui, je sais ce qui s'est passé. J'avais proposé à Michel Demuth, qui avait fait la première traduction, de traduire le texte anglais de la version complète, qui était le plus longue, environ 20, peut-être, oui, 20%, pas plus, je ne pense pas. Et Demuth a rechigné, il a fini par accepter, on lui a fait un contrat, etc. Et tout simplement, Demuth est mort. Alors ça a mis un terme, évidemment, à cette entreprise. Et comme j'étais pris par le temps, j'ai dû, spécialement dans les éditions de poche, il faut qu'on prévoie toutes les choses un an à l'avance. J'ai republié l'ancienne édition et puis par la suite, je n'ai jamais eu l'occasion de faire l'édition complète. Alors, je voudrais dire qu'en effet, Brian Aldiss, c'était un gentleman extraordinaire, very British. Et j'ajouterais qu'il a écrit une histoire de la science-fiction, plus spécialement de la science-fiction anglo-saxonne, qui est parue en deux éditions successives, la seconde augmentée, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Billion Years Three en 86.
Et qui sont vraiment des ouvrages à référence. J'aimerais bien qu'en France, il en existe de semblables. Alors, avant de passer la parole à Norman, je voudrais dire que Brian et lui représentent au plus haut niveau de la science-fiction de qualité deux extrêmes, en quelque sorte. Parce que... Brian, c'est croisière sans escale, c'est le voyage interstellaire. Heliconia, c'est une société sur un monde extrêmement éloigné. Le monde vert, c'est un avenir de la Terre dans un avenir également extraordinairement éloigné. Enfin, toute l'œuvre dont je me souviens, que je connaisse de Brian Aldiss est de cette nature. Alors que toute l'œuvre de Norman Spinrad est très proche de l'actualité, et parfois tellement proche qu'il a été dépassé par les événements.
À mon avis, Brian Aldiss était, qu'on dit en anglais, un homme de lettres. Un homme de lettres avec un... il habitait dans un... dans un mélange de l'idée traditionnelle d'un homme de lettres anglais. Il habitait en Oxford, par exemple, et on fait une chose très très rare avec la connexion au le mélange de science-fiction, vraiment vraie science-fiction, et le monde de littérature traditionnelle, comme un homme de lettres en Angleterre. Il n'a jamais fait un livre. Trilogie de livres, ça manque le niveau littéraire. Il est un homme, c'est vraiment un homme de lettres et le sens Angleterre. Et je crois que seulement peut-être c'est Gérard qui a fait beaucoup de traductions de ça en France, parce que c'est science fiction, mais c'est aussi en fiction littéraire. Il est un homme comme ça aussi, et c'est une chose très rare. C'est une chose très rare. Et la connexion avec La Fonte chez Gérard pour faire beaucoup de livres de Brian qui sont dans la frontière de la chose traditionnelle, le niveau littéraire, de la prose, de la angle d'attaque comme un homme de lettres, mais pas contre la signature de la réalité de la littérature de science-fiction. Un mélange de ça, c'est très rare. c'est très vrai. Et ça, c'est Brian. Je ne parle pas comme un ami de Brian. J'étais un ami, mais comme un critique littéraire à cette chose. Et c'est pas une chose personnelle, mais c'est une chose de ça. Et je crois que en écrivant unique à cette chose, et c'est un éditeur qui comprend ça, de faire ça en français. Et c'est une chose plus tension en Angleterre dans le on dit en anglais, I say this in English, I don't know how to say it in French, the pulp tradition de science
tradition
fiction.
Du roman de guerre.
Yeah, yeah. Et ça c'est pas vrai. Non, pas du tout. C'est un homme de stature grande, l'histoire littéraire, histoire littéraire de la vraie science-fiction littéraire.
Oui. Alors, il a d'ailleurs été intégré au milieu proprement littéraire anglais, parce que je crois qu'il a été un temps président de l'équivalent de la Société des gens de lettres britanniques, qui est d'ailleurs, à mon sentiment, plus intéressante et plus active que la Société des gens de lettres français que j'ai fréquenté, dont j'ai fait partie et dont j'ai fini par démissionner avec éclat, tellement je trouvais que cette Société des gens de lettres française ne servait plus à rien. La question que je me pose quand même, c'est de savoir si... C'est une question, hein, je ne sais pas. Si, dans son propre pays, en Grande-Bretagne, Brian Aldiss a été admis comme un grand écrivain, comme un véritable écrivain, sans rencontrer les difficultés, enfin l'espèce de... comment dire, de rejet, qu'en France, par exemple, même un très bon écrivain comme Michel Jury a rencontré de la part de la critique. Alors, est-ce que Brian Aldiss a... Je crois que c'est plus facile. Il y a une plus grande ouverture en Grande-Bretagne. Peut-être à cause d'une longue tradition, mais nous avons aussi cette longue tradition, mais nous avons quand même ce clivage en France entre les vrais écrivains, qui la plupart du temps écrivent les choses sans le moindre intérêt, et les écrivains de science-fiction, qui même s'ils sont de très bons écrivains, ne sont pas considérés comme des écrivains. Est-ce que, je pense que tu as une idée là-dessus, Norman, est-ce que Brian a été accepté largement, enfin, par le public anglais comme un grand écrivain, ce qu'il était?
Je sais pas, mais y a quelque chose sur le style que disait Norman qui est très très juste. On va peut-être reparler de sa carrière. On va pas tout parler de tout, mais je voulais juste dire qu'il était né en 1925 quand même, donc il était quand même d'une génération plus vieux que Norman, que Mike Moorcock et tout ça. Il était vraiment, par rapport à la génération New World, il était quand même un peu plus âgé. Et que il a été fasciné dans sa jeunesse vraiment par les pulps. Il lisait les revues américaines qu'on trouvait en Angleterre à l'époque. Et il expliquait qu'il avait adoré Common Sense, Les Orphelins du Ciel de Robert Heinlein, qui est un livre de vaisseau générationnel aussi, et que lui avait voulu faire son livre de vaisseau générationnel, mais en se basant sur la tradition anglaise. C'est-à-dire que lui, il voulait écrire de la science-fiction anglaise. Il voulait s'inscrire dans la tradition de H.G. Wells et pas dans la tradition des pulps. Et donc, il voulait, c'est aussi ce que vous disiez, il voulait vraiment écrire avec un souci plus de style que ce qu'il trouvait dans les pulps à l'époque.
Ah, c'est compliqué, parce que le mot anglais, c'est le monde... On dit Angleterre, mais aussi la langue anglaise. La tradition de science-fiction en Angleterre, à mon avis, était un peu différent des choses comme des États-Unis. C'est une histoire d'une espèce de science-fiction d'Angleterre, en cet sens anglais, c'est plus connecté avec la littérature générale, comme les choses de pulp fiction aux États-Unis. Et Brian Aldiss était à le centre de cette chose. Il jamais descend dans une chose commerciale pour faire les choses de pulp, la tradition de pulp. Il est... c'est une connexion littéraire dans une connexion de science-fiction, mais pas de science-fiction de pulp. Il n'a jamais écrit rien du tout. Il a fait quelque chose que peut-être on dit space opera, mais pas c'est pas vrai. C'est une histoire de sont des histoires de le futur, de l'autre planète, mais dans une autre vision.
Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il a, vous disiez qu'il était intégré dans le milieu littéraire américain. Il n'a jamais, lui, Il n'a jamais rejeté l'étiquette de science-fiction, comme a pu le faire Ballard, par exemple. Lui, jusqu'à aller à écrire des livres de référence sur l'histoire du genre, donc il a toujours... il n'a pas eu honte et il a pris pour lui ce label quoi, de science-fiction.
Oui, il le revendiquait même. Il voulait la faire évoluer, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il était auteur et critique, et donc il s'inscrivait complètement à l'intérieur du genre. Il voulait de toute façon que ça... c'est un des artisans du fait que la SF est devenue mature.
Ah, c'est là où nos projets, bien que nous ne soyons jamais concertés là-dessus, se rejoignaient complètement. Ce que j'ai essayé de faire très tôt, dès le départ, déjà dans mes critiques de fiction, et puis ensuite évidemment dans la collection Ailleurs et Demain, ça a été de faire de la science-fiction une littérature au sens plein du terme. Donc ma préoccupation rejoignait absolument celle de Brian Aldiss. Je crains malheureusement d'avoir échoué. Si je regarde la façon dont ce domaine est aujourd'hui présenté, ce qui paraît, il y a de très bonnes choses, comme les tiennes. Il y a de très bonnes choses. Mais, et puis comme celle de Norman, évidemment. Mais l'esprit que j'ai essayé d'insuffler, l'esprit que justement Brian Aldiss représentait et défendait pour la Grande-Bretagne, où c'était peut-être un peu plus facile, je crains qu'il se soit un peu perdu en route.
Et aussi, Brian, on fait les choses adventurous, les choses dans, par exemple, Barefoot in the Head, je ne sais pas.
Il n'a pas été traduit. Ça?
Barefoot in the Head, les choses de la...
non, il n'a pas
la
été
guerre,
traduit.
Psychologique en anglais. Et ça, c'est édité pour la plupart... Premier pote dans New Worlds.
Non, ça n'a pas été traduit. Non. J'ai hésité.
Ah, c'est très difficile.
C'est très difficile à traduire. C'est presque.
C'est très difficile. Bon, peut-être impossible. Mais aussi, il fait les choses en expériment avec le nouvel roman français.
Tout à fait.
Et je ne mets pas ça, mais that's another story. Elle n'est pas en écrivant trappé dans la tradition de lettres anglais. Elle était par Michael Moorcock, qui n'est pas ici, dans New Worlds, pour Barefoot in the Head, et autre chose. Et en même temps, cette connexion avec Ballard. Ballard commence avec les choses traditionnelles, les catastrophes et tout ça.
Oui.
Et il fait l'expérience de forme. Le petit, what I call it, le petit roman, le roman de, you know, Billboard ou ça. Mais, à le niveau, à mon avis, à le niveau de style de prose, Brian était plus adventurous comme ballade.
Oui, ça je le crois aussi. Je crois me souvenir, je ne suis pas tout à fait sûr, d'ailleurs, que nous avons parlé de son intérêt pour le nouveau roman français et en même temps du sentiment que j'avais, que je crois il éprouvait aussi, que c'était une impasse, que c'était finalement une impasse pour lui. Et il a, après avoir essayé ça, donc, dans des livres difficilement traduisibles, il est revenu à une science-fiction, et Lyconia est paru bien après.
Il est revenu, à des romans de littérature générale.
De littérature générale et de science-fiction. Lyconia, c'est vraiment le chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre absolu pour moi.
Non, mais c'est un peu. Moi, ça me rappelait Michel Jury parce que après ces expériences-là avec Report on Probability A, qui est vraiment une tentative de mêler la SF au nouveau roman français et qui a été publié dans New World, il a fait une série de livres un peu sur sa jeunesse, les aventures d'Horatio Stubbs, qui était de la littérature générale. Quoi. Donc, un peu comme Michel Jury, à un moment, arrivé au bout de des expériences, eh ben, on revient à autre chose. Quoi.
Oui, le cas de Jury est un peu différent. Pour dire les choses, Michel Jury est passé de la science-fiction où il ne parvenait plus, malgré mes efforts et ceux d'autres éditeurs, à gagner sa vie, au roman régionaliste, enfin, ou au roman paysan, où il a très vite trouvé un immense public, et un public radicalement différent de celui de ses œuvres de science-fiction. On n'a jamais réussi à les faire coïncider, enfin, faire passer d'un... Si on avait son premier roman paysan, enfin régionaliste, s'est vendu dans un club. Chez Lafont, il s'est pas très bien, il s'est pas mal vendu, mais il s'est pas très bien vendu. Il s'est vendu dans un club à 150 000 exemplaires, ce qu'il a lancé de façon extraordinaire dans ce domaine, et ça a continué. Moi, je me faisais beaucoup de soucis pour l'avenir de Michel Jury, qui était un grand écrivain. À partir de ce moment-là, je n'ai plus à m'en faire.
Norman, vous faisiez partie de l'aventure New Worlds dans les années 70. Alors, j'ai retrouvé une citation de Brian Aldiss, qui écrivait dans son livre House Cartographer en 1974, il disait « Spinrad reste un indéniable talent qui va encore s'épanouir. » Voilà, est-ce que...
Je ne comprends pas. Ballade, on dit ça ? Non.
Non, non.
Aldiss. Je ne veux pas mal.
Ah, ok. Aldiss disait que vous étiez un incroyable talent qui allait encore s'épanouir. Voilà, en 1974.
Je dis ça.
Non, Aldiss disait ça de vous.
Ah, wow. I don't know what has to do with anything, but.
Est-ce que vous l'aviez rencontré à l'époque de New Worlds ou vous l'avez
Oh oui. J'habitais en Angleterre.
Alors racontez-nous un peu New Worlds et est-ce que lui était intégré au groupe vraiment, comme il était un peu plus âgé?
C'est curious, c'est une chose anglais. c'est un groupe. Central de New Worlds, mais Brian n'était pas dans ça, mais dommage c'est Michael Moorcock n'est pas ici parce que Michael Moorcock n'avait pas un grand admirateur à un certain level de Brian, mais il aimait de certains livres. Et il est un bon éditeur qui en fait ça. Et peut-être en un autre niveau personnel, c'est pas la même chose avec Brian comme, par exemple, comme Ballard ou moi. Mais il est Brian. Brian est un écrivain dans le centre de la science-fiction littéraire anglais pour, je ne sais pas, 40 années ou choses comme ça. Et c'est un respect avec le Michael Moorcock et la Nouvelle Vague et tout ça de écrivain comme Brian. Par exemple, une autre chose comme ça, c'est John Brunner. Mike n'aimait pas John Brunner, mais quelque chose que John Brunner a fait, il a un respect pour le travail. C'est pas, ça c'est Angleterre, c'est comme ça. Mais c'est une intégrité littéraire comme ça avec l'éditorial dans cette culture littéraire de science-fiction anglais et en particulier New World. Et Brian est le plus grand exemple de ça, à mon avis. Barefoot in the Head, à mon avis, c'est une chose géniale. Barefoot in the Head, je ne sais pas, mais ça n'est pas édité en français. Ça, c'est une chose psychédélique, très, très. I don't know what to compare.
Joycean. Ça se rapprochait de James Joyce.
Oh. Well,
Joyce, yeah, est well, well, un peu excessif. Là aussi, j'ai hésité, mais je dois dire que j'ai reculé devant les difficultés de traduction.
Non, c'est presque impossibilité. Peut-être avec Iabadia, mais c'est une autre histoire.
J'ai publié des choses difficiles à traduire, mais là, j'ai calé. Alors, je dois dire qu'il est difficile d'imaginer deux personnages aussi différents que Michael Moorcock et Brian Aldiss.
Ah oui.
Brian Aldiss, le mot on ne l'a pas employé jusqu'ici, mais il est important, était un artiste. Michael Moorcock, qui est un excellent éditeur par ailleurs, était un clown. Il est venu chez moi complètement habillé de cuir. Il était un personnage plutôt corpulent, accompagné d'un jeune homme qui était également complètement habillé de cuir et qui était beaucoup plus grand et beaucoup plus mince. J'ai l'impression que c'était vraiment Sancho Panza et Don Quichotte. On a fait des bars et des tas de bistrots. Enfin, Moorcock était. Brian Aldiss était l'archétype du gentleman anglais. Hein. Il n'était pas né dans ce milieu, mais il était devenu. Moorcock était tout à fait à l'opposé de ça. Quant à son œuvre, c'est quand même l'œuvre de Moorcock qui est intéressante, mais elle est quand même beaucoup plus proche des pulps que de la grande littérature.
À mon avis, c'est seulement mon avis, peut-être, que Barefoot in the Head, c'est le chef d'œuvre.
C'est très difficile
pour faire introduire, mais c'est le chef d'œuvre de Brian Aldiss. C'est le plus psychédélique roman que j'ai. Tout ça. Et je demande à Brian. Vous faites prendre le LSD, des choses comme ça. Jamais. Le whisky suffit. C'est une chose. C'est pas possible pour une chose comme ça, Barefoot in the Head, être populaire.
Non.
C'est une chose pour tout le monde littéraire ou choses comme ça. mais on dit James Joyce, à mon avis, c'est vachement mieux comme James Joyce.
En tout cas, c'est beaucoup moins long.
Parce que cette histoire, et c'est un style vachement expérimental, mais compréhensible. Ouais. Il a fait la conscience très, très difficile, mais compréhensible. Il connecte l'histoire d'une conscience, même en réalité, totalement extrême, avec un style qui était compréhensible, avec une vraie histoire. À mon avis, ça c'est mieux comme James Joyce.
Ça me donne envie de le relire parce que je l'ai lu quand je l'ai reçu, c'est-à-dire il a bien 30 ans, si c'est pas 40.
40, oui.
Plutôt 40, donc j'en ai un souvenir un peu ténu, mais bon, c'est le genre de texte sur lequel j'ai hésité, et puis les difficultés de la traduction m'ont fait reculer. Alors Joyce a été traduit, mais il se trouve que j'ai Fine Guns Wake, par exemple, en français, enfin en anglais et en français. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Il y a un traducteur qui a passé 20 ans de sa vie à essayer de rendre Fine Guns Wake en français. Je ne vois pas le rapport. Enfin, et même en ce qui concerne Ulysse, qui est beaucoup plus facile d'une certaine manière, on peut se poser, là aussi j'ai les deux textes, on peut se poser la question de la possibilité d'une traduction.
Même aussi, c'est vrai que Brian Aldiss était très, on comprend les choses de James Joyce. C'est une chose qu'il comprend. C'est pas sophistiqué, avec une conscience sophistiquée. Et l'influence de ça, c'est obvious. Mais ça, c'est la différence avec James Joyce. Et Barefoot in the Head, c'est science-fiction. C'est pas la tradition pulp exactement, mais c'est l'idée de faire une vraie histoire et en compréhension de la science de ce qui a fait le changement de consciousness dans le livre. Et ça, c'est à mon avis, ok, j'ai écrit des science-fiction, à mon avis, il est mange, en effet, l'influence de Joyce à faire une chose plus sophistiquée, on certain level, the level qui était en effet une chose de science-fiction, qu'on comprend l'extérieur, et pas simplement blablabla. Un bon blablabla, mais c'est une évolution à mon avis. C'est pas une rejection de la leçon de Joyce, mais une évolution de ça pour faire une autre chose.
D'accord.
Oui. Alors, d'ailleurs, il a été question tout à l'heure de John Brunner, qui a été un de mes grands amis. Mes relations étaient grandement facilitées avec lui par le fait qu'il parlait un français pratiquement parfait, ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs anglais. Je ne me souviens plus si Aldiss parlait un peu le français, je ne crois pas. Il avait une immense culture, donc il lisait le français. Mais je ne suis pas sûr qu'il parle français. Enfin, je ne sais pas, je ne m'en souviens pas. Mais alors, le cas de Brunner est intéressant parce que il a été des deux côtés. Il a essayé de faire des œuvres littérairement plus achevées. Et tous à Zanzibar, par exemple, c'est quelque chose d'assez étonnant. Enfin, c'est les quatre volumes de sa tétralogie comment, prospective, où il décrit un avenir assez proche sous un jour assez noir. Il y avait un véritable effort littéraire. Par contre, dans beaucoup d'autres de ses romans, il cherche simplement à plaire. Il essaye de survivre en écrivant des romans qui se vendront. Il a espéré devenir un écrivain, un artiste comme Aldiss, comme Brian Aldiss. C'est vraiment un artiste. Je ne pense pas qu'il, même si j'aime beaucoup de ses livres et même si j'ai beaucoup aimé l'homme, je ne pense pas qu'il ait réussi. Enfin,
on revient à Aldiss, peut-être.
On est là pour en parler. Oui, le problème, c'est qu'on ne sait plus très très bien.
Donc, il a écrit Le Monde Vert, Croisière sans escale, on disait. Puis après, il a intégré l'équipe de New Worlds. Il a écrit des romans expérimentaux, puis quelques romans de littérature générale. Sa grosse histoire de la science-fiction. Et au début des années 80, il publie le premier tome de Heliconia, de ce qui deviendra la trilogie. Laurent, toi qui connais bien ce livre-univers, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit ?
Alors, Heliconia, c'est le nom d'une planète dans un système stellaire. Pardon ?
Très éloigné, je crois que c'est à 10 000 années-lumière.
Alors, je ne sais plus exactement par rapport à la Terre, parce qu'il y a quand même des colons qui y sont arrivés. Ouais. C'est une planète qui tourne autour d'un système binaire. Une année dure 1000 ans, on va dire. Donc, elle change en fait d'étoile, en fait, tout simplement. Elle fait un 8, je crois, il me semble. Et c'est l'histoire donc, sur 1000 ans, en fait, de l'humanité, donc de colons humains qui sont arrivés sur cette planète des générations avant. Et leur cohabitation avec les Phagors, dont on va apprendre que c'est l'espèce native, en réalité, même si c'est disputé, la première place est disputée, mais en réalité, les Phagors étaient bien l'espèce native d'Heliconia. Et donc, c'est donc le printemps, l'été, l'hiver, c'est les trois saisons principales de cette grande année. Et c'est l'histoire, c'est toute l'histoire de l'humanité. Résumé en trois romans. Et moi, quand je l'avais lu à cette époque-là, j'avais eu l'impression, moi qui étais très imprégné de Dune, j'avais eu l'impression d'avoir un roman de la même complexité, mais sans messianisme, sans héros, en fait. Et là, tout l'humanisme d'un Aldiss transpire dans la structure même du récit, en fait. C'est ça qui me reste, en fait. J'aurais pas fait au mal, je pense, sans Heliconia. C'est et je pense qu'il a fait plein de bébés ultérieurs ce cycle. Et c'est moi je suis toujours stupéfait quand je pense à Aldiss. Finalement, il a une postérité littéraire, mais qui est pas au niveau de l'auteur qu'il a été, je trouve. On parle peu d'Heliconia dans les encyclopédies, les articles. Pour moi, c'est un livre absolument majeur. On parle peu de ses autres livres. Et je trouve que c'est un auteur qui a pas la postérité qu'il mériterait. Même s'il est reconnu comme un grand artiste. Mais il est peut-être moins flamboyant qu'un Brunner ou qu'un Ballard avec des œuvres que tout le monde connaît, j'allais dire.
Oui, mais il faut bien dire les choses. Heliconia n'a pas été un très grand succès. Ça n'a pas été du tout un échec. Mais ça n'a pas été un très grand succès, même dans le monde anglo-saxon. Et je crois que Brian Aldiss, qui avait consacré des années de travail à cette trilogie, en était assez affecté. Bon, ben, c'était pas son genre de se plaindre. Voilà, il y a quelque chose dans Heliconia qui est important et que tu as souligné, c'est que... le personnage, enfin, si on peut parler de personnage, c'est une société tout entière. Et c'est quelque chose qui est tout de même assez fréquent dans la science-fiction, alors qu'on rencontre ça très rarement, pour ne pas dire jamais, mais en tout cas très rarement, dans la littérature générale. Même si on regarde l'œuvre de Herbert... très fréquemment, ce sont des sociétés qui sont le véritable personnage. D'ailleurs, c'est assez le cas dans Dune, même si, évidemment, l'accent est mis sur Paul Muad'Dib, enfin sur le Messie. Je fais toutes sortes de réserves hein, quant au caractère messianique et quant au caractère mystique de Dune, parce que Frank Herbert ne l'acceptait pas lui-même. J'ai d'ailleurs écrit un certain nombre de textes où je démontre que c'était complètement... Enfin, c'est faire une fausse lecture. Il y a peut-être eu maintenant aussi de son côté une habileté à jouer sur deux publics, sur deux tableaux.
Autre chose de Brian Aldiss, il n'avait pas le peur de la tragédie. La trilogie, là, elle a connu aussi, finalement, c'est en forme de tragédie. Et ça, c'est rare dans science-fiction qu'une chose était en forme de tragédie. Ça, c'est une autre centrale chose de le travail de Brian Aldiss. How did he say this? Il m'a dit, c'est nécessaire un vrai sens de tragédie pour faire en vraie littérature. Si je dis soit oui et noir, non, mais c'est une idée, une forme de Brian qui s'était tellement rare dans la science-fiction. C'est une idée de tragédie, pas you know, en un vrai sens littéraire, comme Shakespeare, chose comme ça. Pas une tragédie quand le vilain triomphe, mais en littéraire, en tragédie, que, c'est une tragédie de la conscience ou la conscience morale de le caractère. Ou de la culture lui-même. Et ça, c'est une chose Brian croit, je crois, une chose plus mature, plus sophistiquée comme la tradition de pulp, chose comme ça. Et ça, c'est aussi une autre chose qu'il fait pour la plupart de son œuvre.
Une des choses à travers laquelle il est aussi passé à la postérité et sorti du cadre purement littéraire, c'est qu'il a été adapté au cinéma. Intelligence artificielle, le film de Steven Spielberg qui devait être réalisé par Kubrick.
C'est une vraie tragédie.
Et, oui, et tiré d'une nouvelle de Brian Aldiss qui n'a au final plus grand chose à voir avec le film. Enfin, le film n'a plus grand chose à voir avec la nouvelle. Et Norman, je crois.
Well, Brian m'a dit les histoires de tout ça.
Voilà, entre Kubrick et. Ian Watson. Spielberg?
Non, c'est pas Spielberg, en avance de
Kubrick.
Kubrick.
Kubrick
de commence à faire le film en petite nouvelle de Brian. Et première fois, il a créé beaucoup de choses dans un étrange bâtiment en Angleterre, et finalement il dit à Brian, quand ça c'est fini, je vais à Hollywood et je commence de commander le plus grand fric de jamais. Et Brian a dit à Kubrick, mais c'est pas nécessaire de faire ça, c'est 5 millions suffisent. C'est non, j'ai raté le record avec 2001 avec, et je voudrais récolter le record pour le film plus expensive. La chose, et Kubrick est mort, et c'est un scénario écrit par Brian, Et pourquoi, combien, je ne sais pas, on fait Ian Watson pour
en
compléter
fait, non, les Kubrick a viré Brian et est allé chercher pour réécrire le script Ian Watson.
Ian Watson. Et Brian et Watson n'aimaient pas.
Voilà, et
non.
Et Aldis a dit non seulement il m'a viré, mais en plus il est allé chercher mon pire ennemi pour écrire.
Voilà. Ça, je ne savais pas qu'ils étaient ennemis. Mais enfin, bon, le film n'est pas inintéressant. Mais par rapport à ce que certainement aurait fait Kubrick, qui était un authentique génie, peut-être le plus grand génie du cinéma, c'est rien, le film actuel. C'est Spielberg qui l'a fait, je crois, finalement. Bon, film sentimental, il y a quelques belles images, surtout à la fin, enfin. Mais ça n'a pas de sens, ça n'a rien à voir avec les films absolument géniaux de Kubrick, en particulier avec 2001, L'Odyssée de l'espace. Si Kubrick avait pu faire ce film, je crois qu'il aurait fait quelque chose d'extraordinaire. Bon. Il est mort, il n'a pas fait...
Laurent, peut-être sur le film, la nouvelle.
Non, bah je confirme sur l'impression du film. Mais ça ressemble pas à Aldis non plus, le film.
Non,
ça n'a rien de... Voilà, mais c'est souvent le cas, de toute façon. Donc, c'est le jeu de l'adaptation que de trahir. On est toujours trahi. Donc, c'est pas grave quand ça fait de beaux enfants comme Blade Runner, mais là, c'était pas si beau que ça. Donc, ouais. Voilà.
Non, mais en ce qui concerne le comportement de Kubrick... qui prend Ian Watson, il est typique de Kubrick. Hein, il a toujours fait des coups comme ça. Hein, et je ne sais pas du tout que Watson et Brian Aldiss étaient ennemis, ou en tout cas, je ne sais même pas. Je ne sais pas du tout, mais c'était si Kubrick est allé chercher Ian Watson, c'est probablement parce qu'il le savait. Ça, il y avait un côté manipulateur et sadique chez Kubrick. Ça n'empêche pas d'être un génie. Mais alors, qu'est-ce qu'aurait donné le film rédigé par Watson, mais dirigé par Kubrick? Ça, malheureusement, on ne saura jamais. Il y a un univers parallèle meilleur que le nôtre où on peut voir le film.
Le travail de Watson marche.
Oui.
Il marche. Les choses avec Brian et Ian, c'est une chose personnelle. C'est une chose anglaise. Mais ça marche.
Ça marche, c'est-à-dire...
Au niveau de le film,
oui.
Une chose personnelle, c'est une autre chose.
Oui, mais enfin, le film n'est pas très bon. Il n'est pas...
Mais c'est pas très bon, mais c'est une chose qui marche.
Oui, non, mais
et
c'est les
choses qui étaient écrites par... Pas Brian ne marche pas chez Kubrick, même Spielberg aussi, mais c'est ironique, en un certain sens, l'ennemi de Brian,
oui,
personnel, en fait, les choses.
Laurent, peut-être pour le mot de la fin. Peut-être tu as envie de dire qu'il n'était pas reconnu, vraiment, qu'il n'a pas la place qu'il mérite, peut-être, dans l'histoire de la SF, Aldis ou...
Il l'a chez les spécialistes, mais clairement, je veux dire, il fait partie réellement des grands, quoi. Mais c'est, voilà, il fait partie de ces auteurs qui, pour moi, qui sont qui font partie des piliers, je ne sais pas, comme... Il y a des auteurs où il y a un avant, je ne sais pas, comme Philippe-Joseph Farmer. C'est un auteur qui est immense aussi et qui n'est absolument pas reconnu comme l'auteur immense qu'il est. Voilà, il fait partie de ces auteurs qui forment à la fois la base et la crête. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est Farmer comme Aldis. Aldis était peut-être plus réformateur que révolutionnaire, mais en tout cas, les deux étaient à la fois sur la crête et formant une véritable assise au développement des thèmes de la SF et à son accession à quelque chose de mature, quoi, d'adulte.
Okay. En faire un art véritable.
Voilà, un art véritable.
Distinct, hein. Peut-être, de la littérature dite générale, mais en faire un art véritable, c'est pas facile. En ce qui me concerne personnellement, j'ai le sentiment un peu amer d'avoir échoué, pas surtout, mais enfin, d'avoir quand même pas complètement réussi.
Bon, on ira lire alors Brian Aldiss. Merci, merci à nous inviter. Merci à vous d'avoir écouté cette conférence. Merci beaucoup.